la balado politique Les Honorables comme invité cette semaine.
Honorable député de Joliette.
Les Honorables, émission numéro 2 avec nul autre que Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette. Merci Gabriel d'être là.
C'est un grand plaisir, Sébastien. Bien content d'être avec toi.
Et là, comme il n'y a jamais de coïncidence dans la vie, ben, tu es ici cette semaine. Pourquoi? Ben, notamment parce que c'est la semaine du budget. Oui. Et je me suis permis d'aller voir la brique puis de m'amener une copie. C'est littéralement la Bible. C'est littéralement l'équivalent de deux bottins de l'Abitibi-Témiscamingue, donc probablement un seul bottin de la Montérégie ou de la Naudière. Mais vous venez de vivre une défense, là. Bon, en date d'aujourd'hui, comme enregistré le podcast, on n'a pas reçu à influencer convenablement les autres partis. Notre amendement a été rejeté. Comment tu as vécu ta semaine, Gabriel Sainte-Marie?
Bien, pour le porte-parole finance, la semaine du budget, c'est toujours une grosse semaine. Là, comme tu disais, il est gros le budget, on n'a jamais vu ça. Là, c'est l'Ancien puis le Nouveau Testament réunis dans un seul ouvrage, presque 150 milliards de nouvelles dépenses. Il n'y avait pas eu de budget pendant 2 ans. Fait que c'est sûr que ça nous tient bien occupés. Mais la plus grosse journée, c'est certainement celle du huis clos. Donc, c'était lundi où là, on est séquestré toute la journée. On arrive là le matin, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ben, il y a un peu de nouvelles qui filtrent la veille ou le matin. Mais puis là, c'est il faut fouiller puis trouver.
Et donc, comment ça se passe, ce huis clos-là? Parce que là, ça, moi, ça dépasse un peu l'imaginaire. Donc, vous êtes dans le secret des dieux. J'imagine que personne n'a des téléphones, personne n'a d'ordinateur. On peut s'imaginer ça. On était 8 du bloc de ce que j'ai cru en voir comme information, donc des gens de la recherche, des communications, toi, ton adjoint Gabriel que je salue. Oui. Et là, c'est de trouver le programme du bloc, trouver les failles, trouver, même que tu as souligné en chambre, la lutte aux paradis fiscaux. Comment tu as passé ta journée? Là, concrètement,
oui. Ça. Là, pis... on arrive le matin, puis là, il faut remettre nos téléphones et tablettes, tout ça. On signe une décharge comme quoi on respecte la confidentialité. Le gros élément, c'est pas tant qu'ils veulent garder la nouvelle, c'est pour pas influencer les marchés financiers avec les nouvelles qui sont là-dedans. Là. Donc ça, c'est le gros point. On a le droit de rentrer nos ordinateurs, mais il faut les mettre en mode avion, donc pas accès à Internet. Puis c'est beaucoup de la confiance aussi. Là. Il y a deux, trois employés du ministère des Finances qui sont présents, qui surveillent, qui répondent à nos questions. Les employés du bloc, quand ils veulent aller au petit coin, ils doivent se faire accompagner pour pas qu'ils fassent aller de l'information. Mais nous, en tant qu'honorables, on a le privilège d'aller pisser tout seul.
Non, t'as-tu le privilège d'aller fumer aussi au cas où, mais...
Ouais, ça, il y avait une couple de recherchistes qui avaient apporté de la nicorette. Là. On trouve ça bien drôle. Fait que là, on arrive, ils nous remettent le budget. Normalement, ils nous remettent aussi plusieurs feuilles en plus. Le communiqué, des détails, tout ça. Mais là, le budget, le discours du budget était au début du budget. Donc, on avait cette brique-là, version française-anglaise. On fouille, puis normalement, les fonctionnaires répondent à nos questions. Là, vu avec la COVID, c'est 2 fois 1 heure. On se joint par vidéoconférence, puis seuls les députés peuvent poser des questions. Donc là, il n'y avait que les conservateurs puis le bloc qui avaient des députés. Donc, il n'y avait que ces deux formations-là qui ont pu poser des questions aux fonctionnaires.
Et là, toi, tu t'assures. Donc là, il faut que tu sois prêt parce qu'à 4 heures, Mme Freeland fait son discours qui a duré quoi? 40 minutes à peu près, je pense. Et après ça, il y a une réplique des conservateurs. Il était le premier à poser la question de la part du Bloc québécois. Comme je disais tantôt, ton intervention était notamment sur les paradis fiscaux. Cet enjeu-là te tient à cœur particulièrement. Je t'ai entendu souvent en chambre là-dessus. Pourquoi?
Oui, ça, c'est mon combat personnel. Évidemment, si j'étais en politique, c'est pour l'indépendance du Québec. Ça, c'est clair, c'est fondamental. Mais dans la société occidentale, la grande inéquité, c'est l'utilisation des paradis fiscaux. Donc, pourquoi est-ce que les multinationales, les grandes banques de Toronto, les grandes fortunes, les milliardaires, qui ont des taux d'impôts assez faibles, mais c'est trop élevé pour eux, fait qu'ils trouvent toutes les patentes puis les passe-passe possibles pour artificiellement détourner leurs profits, leur argent, pour payer le peu de, pour éviter de payer le peu d'impôts qu'il y aurait à payer ici. Puis après ça, ça se répercute dans nos finances publiques. Là. Si on a de la misère à financer la santé, l'éducation, tous les services sociaux, les routes, c'est notamment parce que ces gros-là, ils payent pas leur dû. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ça change. Puis le pire, c'est que le Canada est un cancre à la matière. Quand on le compare à ce qui se fait aux États-Unis, en Europe, tout ça, on est encore loin du compte, donc il ne faut pas lâcher le combat.
Tout à fait. Bien, merci de le faire. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Un autre enjeu important a été celui des aînés. Pourquoi ça prend autant de place, les aînés?
Bien, parce que Au cours des dernières années, des dernières même décennies, je dirais, il y a eu beaucoup de mesures sociales pour aider les familles, puis c'est bien, puis l'itinérance, puis beaucoup de catégories de personnes dans la population qui en avaient grand besoin. Mais les aînés, eux autres, leur revenu qu'ils ont à la retraite, il n'a jamais été indexé, il n'y a jamais eu de mesures suffisantes pour les sortir de la pauvreté. Puis quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans les pays de l'OCDE, en Europe, il y a vraiment, là, c'est au Canada où le niveau de vie baisse le plus quand on tombe à la retraite, puis notamment parce que Ottawa, au niveau de la pension de la sécurité de vieillesse, joue pas son rôle depuis nombre d'années. Donc, c'est une question de dignité. Avant la COVID, là, on allait voir les aînés, puis ils nous le disaient, là, les loyers à payer dans les résidences de personnes aînées, ainsi de suite, tout augmente, ils n'y arrivent plus, donc c'est une question de dignité.
Et la réaction des gens, elle est impressionnante. Le fait qu'on crée deux classes d'aînés, il y a des aînés qui se sentent profondément exclus. Et bravo de l'avoir nommé de cette façon-là, parce qu'effectivement, d'abord de faire la bataille pour avoir un peu de dignité puis un peu de revenus pour les aînés, parce que c'est les seuls pratiquement qui n'ont pas aidé, sinon le chèque de 300 $, qui ironiquement, c'était 300 $ qui a été donné l'été passé, mais qui couvrait 25 $ par semaine pendant 3 mois.
Mais
la pandémie n'a jamais fini.
Ben non.
Et finalement, cette mesure-là est donnée une fois. Il n'y a rien de récurrent là-dedans. Mais bon, j'aurai la chance d'en reparler avec Andréane Larouche
un peu
plus tard. Nomme-moi deux choses que tu as aimées dans ce budget-là, parce qu'on a dit qu'il y avait du bon là-dedans et qu'on a raison de le faire.
Choses que tu as aimées. 150 milliards de dépenses, il y en a des dizaines et des dizaines de choses intéressantes, mais notamment l'aérospatiale, à peu près 2 milliards d'accordés à l'aérospatiale. C'est la première fois que l'industrie, qui est un incontournable dans l'économie québécoise, est reconnue et soutenue. Donc ça, c'est une première, je le salue. Puis l'électrification des transports, le Québec a tout pour réussir. Mais comme dit François, le défi maintenant, ça va être de s'assurer que cet argent-là permet de conserver l'expertise au Québec et pas de la déconcentrer à cause, tout cause, tout cause, comme ils disent, puis faire perdre notre avantage. Quand c'est de l'argent pour l'automobile, ça va en Ontario, c'est entendu, bien, on s'attend de la même chose de nos secteurs forts au Québec.
Tout à fait. Gabriel Sainte-Marie, on va essayer de te connaître un peu plus. Donc, avant de faire de la politique, tu étais professeur au cégep, professeur d'économie. Donc, il n'y a pas d'hasard dans la vie comme quoi que tu es notre porte-parole en économie. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller étudier en économie puis devenir professeur?
Quand j'ai découvert ce qu'est l'économie, justement, quand j'étais au cégep, puis c'est un prof influent, là, c'est souvent comme ça que ça se passe. Jean-Yves Daou, que je salue, ça a été vraiment une passion, puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis, c'était vraiment mon rêve d'envie de pouvoir enseigner ma passion, puis j'ai fait ça pendant presque 10 ans à Joliette, un peu plus si on compte les autres cégeps avant. Puis il n'y a pas un matin où je me suis levé, où je me dis « Ah, ça me tente pas aujourd'hui », tout ça. C'était vraiment une grande passion, puis je faisais un peu de recherche en parallèle avec ça. Donc, je menais une vie comblée, mais le goût de la politique, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations. Moi, en 95, j'avais 15 ans, je me suis politisé là vraiment, puis ça m'a jamais quitté depuis. Donc, quand j'ai eu une opportunité extraordinaire, là, celle qu'on a de représenter notre monde pour la formation qu'on aime, j'ai sauté sur l'occasion.
Mais opportunité extraordinaire, je veux dire, on était en 2015, le Bloc avait 10 députés, c'était le retour de 4 députés, pardon. Gilles Duceppe était de retour pour la campagne électorale. Tu as décidé de faire le saut. On s'entend que l'idée de dire « moi, je vais pour gagner », tu as pris un risque énorme. Là. Ah, tu t'attendais-tu à gagner? Comment tu as
vécu
ça?
Non. Je dis non, mais c'était pas une fin en soi gagner. C'était même avant le retour de Gilles Duceppe où j'ai été investi là, un an avant les élections. On a remonté l'exécutif dans le comté, on a redéployé les forces militantes, là, les bénévoles, tout ça. Mais pour moi, il est inenvisageable de m'associer à un autre parti que le Bloc, qui aille bien, qui aille mal, pour être la voix du Québec à Ottawa. Puis quand on siège ici, on le réalise encore plus. C'est deux nations, deux sociétés profondément différentes qui s'ignorent. Et puis ici, on le voit. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce que la population de ma circonscription choisira, ben moi, je vais porter ces couleurs-là parce que une voix, la voix du Québec, ça, c'est mon parti, c'est qui que je suis. C'est mon cheval de bataille, certainement. Donc ça, c'était pour moi une grande fierté. Puis aussi, après ça, on se retrouve en campagne. Puis c'est le fait d'être candidat, c'est l'opportunité ou c'est l'excuse un peu pour dire « on va aller voir tout le monde, on va découvrir notre monde, On va connaître les entreprises, les organismes, les personnes, les municipalités. Ça nous permet de bien mieux connaître d'où on est. Moi, je viens de Saint-Jean-de-Mata, c'est dans Matawini. Mon comté, c'est…
C'est Louis-Cyr, ça, Saint-Jean-de-Mata.
Oui, 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 oui. Oui. Même j'ai où qu'il y a le musée actuellement, là, je restais là avant, c'était à mon oncle Jean à l'époque. Là, il me louait ça quand j'étais à la maîtrise. Je me disais, ah, ben la maîtrise, on a moins de cours en personne. Là, fait que j'étais retourné aux racines.
Mais… La rumeur fait qu'effectivement, en campagne électorale, tu étais capable de faire bien des prouesses, même de monter dans une échelle de pompier. C'est quoi cette histoire-là? On m'a dit que c'était une question qui valait la peine de te poser.
Ben oui, ça, dans la tournée, là, il y avait…
Je dévoilerai pas mes sources.
Ben oui, je m'en doute bien. Hein?
On la salue.
Oui, c'est ça. Ça, c'était à Saint-Donat. Il y avait les pompiers qui étaient là pour une journée grand public. Puis c'était dans le Festival des couleurs, là, la campagne en 2015, c'était 78 jours. Fait que là, je vois les saluer, tout ça. Ils me disent « Ah, ben t'es candidat, monte dans l'échelle. » OK. Fait que là, je monte, mais c'est haut vu d'en bas, mais c'est encore plus haut quand on est dedans, puis vu d'en haut, puis ça branle. Là à chaque pas, je me disais « Oh boy, que de sensations. Qu'est-ce que je fais en politique cet après-midi? » Puis j'ai dit « On va continuer. » La vue était belle en haut. Même si ça faisait peur, ça branlait. Je me disais « C'est assez solide, ça va tenir. » Fait que… Allons-y, on dit en politique, c'est se jeter dans le vide, mais là, j'étais attaché après l'échelle, fait que le danger était moindre.
Heureusement, ben, t'as bien compris que ça venait de Joanie Arnois, qui a fait la campagne avec toi et qui a été ma directrice d'organisation de campagne, parce que depuis, elle a déménagé en Abitibi-Témiscamingue.
Ben oui, rendue une de vos fières ambassadrices.
Et j'ai eu ce privilège-là d'avoir dans mon équipe quelqu'un d'expérience qui a vécu la nouvelle génération du Bloc québécois, puis que t'as pu contribuer à former, donc effectivement,
je l'ai contacté. Elle a contribué à me former aussi. Là, c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec elle. Je la salue. J'ai hâte de la voir. Vivement qu'on soit toutes vaccinées.
Absolument. Et là, ben, ton parcours. D'abord, tu l'as dit tantôt, toi, tu es ici pour l'indépendance. C'est quoi être souverainiste aujourd'hui, en 2021?
Ben, c'est de, un, reconnaître que quand Ottawa prend des décisions, il décide pour lui, pour sa nation, pour son monde. Puis comme le Québec est bien différent, ben, c'est pas pour nous. Puis là, après ça, nous autres, on essaie de dire « Oui, mais on existe, puis oui, on voudrait faire nos choses à notre manière. » Puis ce qu'on réalise, c'est en criant bien fort, en s'organisant, en poussant, en lâchant pas, on est capable d'aller chercher des gains. Mais il n'y a jamais rien qui est acquis. C'est toujours à recommencer. Puis on le voit, là, dans le Canada anglais, le reste du Québec, à l'extérieur du Québec, plutôt, eux, leur État, leur gouvernement, c'est ici, c'est Ottawa, donc ils veulent tout centraliser, ils veulent s'ingérer dans tous les champs de compétences, puis ils veulent dénaturer ce que serait une fédération, là. Donc, pour l'autonomisme, là, c'est bien dur à tenir, cette approche-là, parce que pour Ottawa, il faut que ce soit Ottawa qui s'occupe de la santé, de l'éducation, des garderies, de tout, pour tout dépouiller, ce qui est Québec. Puis, comme ils financent de moins en moins via les transferts, les programmes qui reviennent aux provinces, ça fait que les provinces n'ont plus de marge de manœuvre, puis ils doivent dire, ben, on va faire comme Ottawa veut. C'est eux qui ont la marge de manœuvre.
Et là, c'est même plus subtil dans le budget, là, quand on parle des champs de compétences des provinces dans les CHSLD. Il y a comme une guerre ouverte qui a été déclarée au gouvernement du Québec et au gouvernement des provinces.
Précisément, dans ce budget-ci, il y a la création d'un nombre incalculable de normes, de cadres, d'agences, pour s'ingérer dans les champs de compétences, l'infrastructure est mise pour avoir un bras de fer majeur pour centraliser les pouvoirs vers Ottawa. Là, Québec devra bloquer ça certainement, puis ça sera pas évident parce que le pouvoir est ici certainement. Fait que nous, est-ce qu'on peut avoir nos propres initiatives, exister, faire les choses à notre manière, comme en 97, créer les CPE, alors que ce n'était pas du tout dans la vision d'Ottawa. Bien, si on n'a plus d'autonomie, de moyens de faire les choses par nous-mêmes, ça ne marche plus. Puis évidemment, la suite logique de ça, c'est bien, aussi bien être bon voisin que mauvais coloc.
Et entre les deux, ben, tu as déposé un projet de loi en lequel j'avais un très grand espoir, auquel je crois beaucoup. Bien, d'abord, parce que c'est de faire un seul rapport d'impôt unique, mais évidemment, géré par le Québec. C'est allé loin. C'est allé même jusqu'à adopter en deuxième lecture, donc sur le principe.
Oui.
Comment tu as vécu ça? D'abord, ce projet de loi-là te tenait à cœur, toi, personnellement. Ça aurait été, je pense, le plus gros gain qu'on pouvait espérer faire pour le Québec. Quasiment, ça aurait été un gain historique. Mm-hmm. Y as-tu cru, à un moment donné, qu'on l'adopterait peut-être?
En politique, là, il faut y croire. Si on prend Yves Perron, là, son projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, on pouvait dire dès le début, ben non, ça va être battu. Puis Crime, il n'a pas lâché. Puis avec les agriculteurs, les agricultrices, il l'a eu. Fait que de la même manière, on part, puis on travaille pour l'avoir. On fait tout pour l'avoir. On l'a eu la deuxième lecture. Mais je te dirais, c'est un projet de loi un peu plate. Parce que les rapports d'impôts, le monde trouve ça plate. Puis là, la niaiserie, c'est qu'au Québec, on est pogné pour en faire deux. Puis là, c'était juste de dire, on va simplifier la vie du monde. Là, comme on l'avait fait pour les entreprises, il y a déjà belle lurette. Avant, il fallait qu'ils payent la TVQ à Québec, puis la TPS à Ottawa. Puis là, avec des négociations, tout ça, ils ont réussi à dire, bien, c'est Québec qui va s'occuper de ça puis qui va payer la part d'Ottawa. Donc, simplifier la vie du monde, on peut-tu le faire pour le rapport d'impôts? Et la fin de non-recevoir des libéraux, là, c'était épouvantable. Si vous pensez que le Québec a sa place d'autonomie là, dans le Canada, là, il ne peut même pas dire on va collecter l'impôt selon votre méthode puis vous la transférer. Grosse fin de non-recevoir. Volte-face, flip-flap, là, sans arrêt des conservateurs. Même chose, le NPD, ils ont dit ben, nous autres, on ne veut pas qu'on perde un emploi. On va avoir des garanties béton. Puis oui, ça prend des bons emplois de fonctionnaires dans les régions, partout au Québec, puis ça, on défend ça. Sauf que là, c'est sûr, si l'argument, c'est de dire, il y a deux personnes qui sont payées à faire la même affaire, on va en mettre rien qu'une, bien là, l'autre, elle peut, la fonction publique fédérale est en sous-effectif, on peut la redéployer ailleurs, mais là, le niveau de garantie qu'ils voulaient était tel que ils ont finalement, on comprend que dès le début, ils étaient contre, puis ils voulaient se donner une belle image auprès du Québec, pas trop les décevoir, en disant, entre-temps, on sera peut-être en élection, puis on aura sauvé la mise. Mais non, c'était un manque de sérieux, là. Les libéraux, c'était sérieux, c'était non, fin de non-recevoir. NPD puis conservateurs, là, les flip-flaps qu'ils ont fait, là, en comité, c'est les conservateurs qui ont laissé les libéraux nous battre, alors que les NPD a voté pour. On
ça
a ramené.
Abstenu, mais ouais, évidemment.
Sachant que ça serait battu, là, fait que c'est l'équivalent de voter contre. Là. Puis là, ça revient, on ramène ça en chambre. Là, c'est les conservateurs qui ont voté pour, les NPD qui ont voté contre. C'est du manque de sérieux, le manque de considération pour le Québec, un grand manque de respect. J'en reviens pas.
Et c'est un manque de considération économique aussi parce que c'est quand même 450 millions de dollars que nous coûte le dédoublement à chaque année. Là-dessus, il y a une part importante qui vient des entreprises elles-mêmes. Oui. Donc, le fait de payer un comptable pour faire deux fois le travail, je pense que c'est 93 millions que tu disais que
ça faisait. Oui, les chiffres exactement, là, je ne les ai pas, mais c'est à peu près la moitié en dédoublement administratif, puis après ça, la grosse part de l'autre moitié, c'est les entreprises. Là. Donc, probablement, au moins ça, c'est ça.
Donc, on parle, c'est évidemment des subventions pour aider les entreprises, mais aussi trouver des moyens qui dépensent moins dans quelque chose qui est des doublons, c'est une solution.
Justement, si on revient au cégep, là, j'enseignais aux jeunes en sciences humaines puis en administration. Mes collègues profs comptables en administration, là, le nombre de lettres puis de téléphones qu'ils faisaient et à Revenu Québec et à l'Agence du revenu, puis ça, je le vois maintenant avec les entreprises du comté puis partout au Québec. On peut-tu faire un guichet unique, là, l'interprétation, puis ci, puis ça, puis le tantillonnage? Un endroit, une personne, un organisme qui vérifie, puis on élimine les dédoublements là, pour les entreprises. Là. C'est pas quand Alexandre Boulris dit « ben là, maintenant, tout se fait sur Internet. Wow, minute, là, t'es pas allé les voir, eux autres. »
J'aimerais t'entendre sur un autre projet de loi, le C-208, qui est en discussion présentement, en tout cas ce soir, à la Chambre des communes, donc sur le transfert de fermes et d'entreprises, en fait, dans un contexte apparenté. C'est un projet que tu as étudié article par article au comité des finances.
Exact.
Donc, on explique la situation. Il y a une première lecture dans laquelle on présente le projet de loi, une deuxième dans laquelle tous les partis peuvent présenter leur position dans des échanges. Et là, il y a un vote sur le principe. Ce vote de principe-là a été voté contre les libéraux, mais l'opposition étant majoritaire, ça l'a passé. Après, ça a été amené au comité finances. Et là, vous faites venir des témoins et vous faites l'étude article par article. Comment ça s'est passé?
Bien, évidemment, les libéraux étaient nonchalants. Les témoins intéressants, évidemment, c'était dans le milieu de la petite entreprise, la FCEI, les agriculteurs, la relève agricole qui sont venus témoigner. C'est des choix là, déchirants. Là. Un agriculteur là, qui arrive et il voit ses enfants qui reprendraient bien la relève, lui, il faut qu'il fasse le choix. À cause des règles niaiseuses d'Ottawa, là, il dit « si je vends mes enfants, ça va me coûter des centaines de milliers de dollars de plus que si je vends à une tierce personne. » C'est ça pour les petites entreprises. J'ai des cas dans le comté que je vois de ma fenêtre de mon bureau là, quand je me branche en Zoom. Plein d'agriculteurs. Donc, c'est des choix déchirants. Est-ce qu'on ne peut pas juste dire, ben, quitte à ne pas avantager la relève familiale dans les entreprises puis dans l'agriculture, juste dire on va mettre les règles légales. Bien là, ça, je comprends que ça vient des hauts fonctionnaires ici là, du ministère des Finances qui disent « Ah, mais il y en a qui vont essayer de s'en mettre plein les poches. » Mais Québec, j'ai parlé au ministre des Finances là, un peu avant la pandémie de ce sujet-là. Il disait « Voyons donc, on a changé ça, puis ceux qui s'essayent, on a mis des règles pour que ça ne fonctionne pas, puis ça marche bien. Il n'y a pas de problème, mais il y a un blocage. » Parce que le premier qui l'a amené, c'est un libéral, Emmanuel Dubois. Mm-hmm. Quand les conservateurs étaient au pouvoir, il était contre. Là, dans l'opposition, il y a Xavier qui l'avait amené, oui. Il y a Guy Caron du NPD. Mais là, c'était les libéraux au pouvoir, ils étaient contre. Puis là, ben, comme ils sont encore contre, mais minoritaires, on a pu l'amener. Là, c'est en troisième lecture. Là, ce soir, j'ai bon espoir que ça puisse être mis en place. Puis ça, c'est le genre de mesures concrètes qui font une grande différence pour le monde.
Absolument, parce que sur une ferme d'à peu près quoi, 1,5 million de valeur, c'est de l'ordre de 400. On passe de 400 à 1 000 à payer en impôts à 800 000 à payer en impôts. Donc finalement,
c'est pas des pinottes, hein? C'est
ça,
ton
c'est
fonds
si
de retraite.
Tu le vends à un étranger, tu te fais deux fois plus d'argent pour la valeur même de ta ferme que si tu restes dans ta ferme.
L'idée là, des politiques économiques, c'est d'encourager ce qu'on veut comme société. Qu'est-ce qu'on aime plus que des fermes puis des entreprises familiales puis quand il y a de la relève? Puis là, on dit non, si tu fais ça, on taxe de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est du gros n'importe quoi.
Dernier sujet de cette première partie que je veux te nommer, puis en même temps te le nommer avec un gros merci, parce que moi, comme jeune député du Bloc, je trouvais que, Colin, surtout dans le contexte virtuel et autres, je trouvais que la place des débats était difficile. Puis j'avais besoin, comme député, d'avoir de l'influence sur l'interne du parti puis de nos caucus. Fait que j'ai eu cette idée-là de créer un caucus économique sur lequel je t'ai tendu la main, avec Guillaume, évidemment, ton bras droit avec qui je parle à tous les semaines et que je remercie, qui est d'une aide absolument précieuse et fondamentale, avec Christian dans mon bureau et d'autres, Sophie à la recherche. Bien, l'objectif, c'est de trouver deux sujets par semaine. Et là, toi, tu es toujours là pour amener le complément finance, l'actualité et autres, bien, te dire d'abord merci d'avoir embarqué et de donner ta crédibilité à cet esprit-là. Puis en même temps, bien, je pense que c'est une occasion d'avoir, oui, un peu de débat, un échange d'idées à l'interne, valoriser le rôle des députés aussi qu'on a, mais on a toujours, enfin, un bon succès en termes de participation. Comment tu te prépares à ça?
Ah bien, d'abord, là, oui, c'est un immense succès, là, puis les fleurs te reviennent bien plus qu'à moi. Là. Merci d'avoir mis ça sur pied. Il y a une participation, ça fait un échange entre les collègues. On apprend à chaque semaine, c'est super le fun. Moi, comment je me prépare pour ma partie, c'est plus parler justement de l'actualité. Donc, c'est de suivre, faire une espèce de topo et où la mise à jour de nos dossiers. Puis notre force au Bloc, c'est qu'on est branché sur le monde, sur les entreprises, sur les organismes. Donc, dès qu'il y a un de nos collègues qui a un cas dans son comté, on s'en parle entre nous. Après ça, on se rend compte que rapidement, il y a plusieurs autres cas similaires qui surviennent, puis rapidement, on est outillé pour interpeller le gouvernement. Souvent, je te dirais, 85 % des cas sont réglés dans l'ombre, mais c'est là qu'on a le sentiment du travail bien accompli. Puis ça, ces caucus économiques-là, ça fait toute une différence. Donc, chapeau, puis merci à tous ceux qui y participent.
Je tiens à témoigner que tu es de ceux qui répondent effectivement très rapidement quand on a une question. Je fais une petite pause musicale. Je t'ai demandé d'amener un produit de Joliette, nous faire connaître un peu plus ta circonscription. Je te laisse sortir ça.
L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue.
Vous écoutez la balado politique Les Honorables comme invité cette semaine.
Honorable député de Joliette.
Je suis pas surpris qu'un amateur de bière comme toi nous amène une bière de microbrasserie, mais que je ne connais pas. On connaît davantage l'Alchimiste du côté de Joliette.
On a des microbrasseries exceptionnelles dans le comté. Oui, l'Alchimiste qui est là depuis longtemps. Le repère dans le centre-ville, c'est l'Albion qui est maintenant en bouteille. On a à Saint-Côme le Trécarré. Il y a plusieurs microbrasseries. Puis ça, c'est vraiment un autre coup de cœur. C'est Maelstrom qui est à NDP, qui a gagné des prix, Une équipe là, super tripante, super allumée. Donc, vraiment, là, un produit à découvrir, là, les produits de la brasserie Malmström. Mais comme toutes les autres, j'aurais pu prendre les autres aussi qui sont très bonnes. On a aussi des bons produits. Je pense au fromage du champ à la meule. On a du miel. On a des... En tout cas, il faut venir faire un tour pour goûter à tout ça. Mais là, ici, on a la Malmström qui est vraiment un coup de cœur.
J'ai prévu deux verres là, je te laisse sortir deux gorgées.
J'en ai juste besoin de un.
Parfait, non, mais c'est une blague. Ben non, mais moi, j'aimerais goûter quand même.
Ben oui, je sais, je te taquine.
Et en même temps, ben, c'est quoi Joliette au Québec? Bon, tu es situé à 45 minutes à l'est de Montréal. Oui. Tu as nommé Saint-Côme, évidemment, qui est une place importante. Faut sortir là, vers Rawdon puis Joliette. Rawdon, es-tu dans ta circonscription?
Oui, certainement, certainement. Rawdon, qui est un peu la capitale de la Matawinie. Là, la Matawinie est dispersée. Mais la ville la plus importante, c'est vraiment Rawdon. C'est là que sont les organismes, une ville extraordinaire. Je salue tous les gens de là. Donc, le mieux, c'est de venir voir pour faire le tour. Je te dirais, la MRC de Joliette, la ville, le Grand Joliette, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Maelstrom, Saint-Charles-Borromain, là, on a une belle ville, des services, tout ça. On a des quartiers industriels. Il y a beaucoup d'activités qui se font là. C'est très bien. En périphérie, on a beaucoup d'agriculture avec d'autres entreprises. C'est assez varié. Quand on monte au nord, dans la Matawinie, là, c'est plus la forêt, les lacs. Et dans le sud de la Matawinie, il y a beaucoup d'agriculture aussi. Mais plus on monte, plus c'est la forêt, puis la villégiature. Donc, un beau coin de territoire. Donc, je te propose là, de déboucher la Soleil, une bière sûre de fermentation basse, 6,2%, donc une gorgée chaque. Pas
parfait.
Plus, parce qu'on est des gens raisonnables.
Parfait.
Et comme le dit l'émission, honorable.
et pour ta gouverne à toi, moi, ce que je t'ai amené de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un vin du domaine des Ducs. Donc, tu l'auras à la maison. Pourquoi le domaine des Ducs? Est-ce que ça te dit quelque chose?
Vas-y donc.
Je sais parce qu'on l'avait invité à ma suggestion, mais tu l'avais invité au comité des finances pour venir nous parler de l'impact de la pandémie. Et tu m'avais dit que c'est une femme dont tu suivais la carrière depuis longtemps.
Oui.
Donc, c'est Claire Bolduc qui a un domaine.
Colin, c'est
et
ben
qui
trop
a,
vrai, ça.
produit justement un vin. Ils ont un blanc et un rouge. Je t'ai amené le blanc parce que, notamment, ils ont refait récemment leur recette de raisin. Puis, honnêtement, c'est un gros succès.
J'ai bien hâte de goûter à ça. Puis, je la salue. Oui, Claire, je suis ce qu'elle fait depuis longtemps. Là, cette semaine, on est dans le tourbillon du budget. Là, on n'a pas toujours la mémoire vive.
Et je voulais t'amener à parler de ruralité là-dedans parce que c'est un enjeu qui est important dans ta circonscription.
Oui.
Tu viens de le faire, donc c'est pour ça que je te dévoile ma bouteille à ce moment-ci. Des gens célèbres qui viennent de Joliette, on vient de nommer, ou de ta circonscription, on a nommé Louis Cyr, ce qui est quand même très fort.
Oui, en fait, Saint-Jean-de-Mata, je viens de là, c'est dans Matawinie, mais c'est du côté d'Yves Perron.
OK.
Oui, mais ben moi aussi, je te dis santé, je vais y goûter.
Santé à Yves aussi. Ouais. Très agréable.
C'est bien sûr, j'aime bien ça, ce style-là. Puis, mais leur lager, tout ça, là, c'est très bien. Oui, ben il y a beaucoup, beaucoup de monde. Par exemple, Michel Rivard, il est rendu dans Matawinie. Joe Bocan est hyper impliqué, j'avoue, tellement souvent. Moi, c'est une idole de jeunesse, fait que c'est toujours un grand plaisir. Puis, j'avais enseigné à son gars William, qui était ben cool aussi. Il y a Martin Deschamps, Rawdon, tout ça, là, hyper impliqué, c'est super. Des gens comme Yvan Ponton, qui est à Joliette. Donc, ben du monde, ben le fun. Mais notre particularité dans notre coin, c'est le trad. Moi, je joue de l'accordéon à Python. Depuis que je suis petit, on fait des chansons à répondre d'un party, les parties de famille. C'est comme ça que ça se passe dans notre coin. La bottine souriante, c'est chez nous. Yves Lambert, il est à Sainte-Mélanie. Toute la gang, à peu près, là, sont là. Les charbonniers de l'enfer, tout ce qui est trad au Québec, là, c'est Lanaudière. Puis je te dirais en particulier mon comté. Ça, j'en suis bien fier. Puis à Saint-Charles-Borromain, il y a le festival Trad Mémoire Racine, qui est un modèle là, en Amérique du Nord. C'est hyper trippant.
La chasse-galerie passe par chez vous aussi,
oui,
d'ailleurs.
Oui.
Mais si tu cherches un prétexte pour venir en Abitibi-Témiscamingue, sache que du côté de la circonscription d'Abitibi-Bégin-Musévic, de Sylvie, on a un festival trad du côté de Val-d'Or.
Après la COVID, c'est sûr, j'irai voir ça.
Tu t'es engagé récemment à être candidat à la prochaine élection. Tu as eu ton investiture. Tu as été présenté par Véronique Yvon. Mm-hmm. Vous semblez avoir une très belle complicité. Parle-moi de cette relation-là.
Véronique, là, pour moi, c'est une députée modèle, là, quelqu'un qui s'implique, qui a des convictions, qui fait de la politique pour les bonnes choses, pour améliorer la société. Puis l'indépendance est au cœur de tout ce qu'elle est. Moi, je me souviens, là, elle venait d'être élue, puis on était allés ensemble avec Alexandre, dans la voiture d'Alexandre, une vieille Honda Civic Hatchback, à Québec, au conseil national du PQ. Ça doit être en tout cas c'est début des années 2000 là, puis depuis ce temps-là je la suis, c'est une inspiration. Puis là, ce qui est bien le fun, c'est quand, avant la COVID, quand on a des événements, quand on arrive ensemble, c'est toujours bien le fun d'être à ses côtés là, d'être dans un bastion où le Parti québécois est toujours debout, est toujours vivant. Puis sinon sa capacité de travail puis sa rigueur, là, c'est impressionnant.
Parce qu'effectivement, selon Canada 338, parce qu'évidemment, les policiers ne suivent jamais un sondage, c'est toi qui somme toute le comté en tête, le comté modèle. Donc,
sincèrement, j'avais pas suivi ça, mais disons, les deux autres élections, ils me mettaient pas en tête, puis ils me mettaient battu tout le long. Fait qu'il faut, en prendre puis en laisser de ces modélisations-là.
Tout à fait, moi
aussi. Il faut la gagner, notre élection.
Absolument, jamais prendre rien pour acquis. Assurément. Merci, Gabriel. Deux dernières questions. Oui. D'abord, une reconnaissance que tu as reçue dans la vie et qui t'a fait particulièrement plaisir.
Eh boy, bonne question. Ben, les médailles, tout ça, pas trop. Sinon, les diplômes là, qu'on a pu recevoir. Mais ma reconnaissance, là, c'est quand, comme député, quand, dans l'ombre, tu peux régler le cas d'une personne qui en arrache, là, c'est pour ça qu'on s'implique, là, essayer de faire un peu de bien autour de nous autres. Puis tu dis, ben, vu que je me suis occupé de ce dossier-là, puis avec l'équipe, puis là, sa vie s'est améliorée. Là. Ça, c'est arrivé quelques fois. Là. Ça, il n'y a pas de plus grande reconnaissance dans notre job ou dans ma vie professionnelle que ça. Là. Certainement, c'est de savoir qu'on a fait une différence à un moment pour quelqu'un. Puis c'est encore plus le fun quand c'est pas dans le journal ou pas reconnu. On dit, ça, c'est voici pourquoi je m'implique.
Bravo, bravo, sincèrement. Puis, dernière question, un moment cocasse que tu as vécu comme député ou une intervention que tu aimerais refaire, soit dans ta circonscription ou en chambre?
Ah oui, bien ça veut bien rouler, ces médias sociaux. Là, moi, quand j'ai été élu, on était dans l'édifice du centre. Là, ils l'ont fermé, là, avec les octrois de contrat du temps de Gagliano. Là, ça va coûter une fortune, puis ça va durer belle lurette. Fait qu'on est à l'édifice de l'Ouest. L'acoustique dans la nouvelle chambre est vraiment pas bonne. Fait que dès que quelqu'un chahute un peu, on s'entend plus. Puis il y a un député conservateur, là, M. Lepard, pour ne pas le nommer, là, c'est un ancien ministre du gouvernement conservateur de la province de l'Alberta. Il me chahutait, puis il criait, tout ça. Puis là, un moment donné, j'avais dit, laisse-moi parler, toi. Puis c'était sorti, puis ça, c'était, on était juste 10, on était dans le fond. Il fallait se battre pour pouvoir prendre notre place, poser nos questions. Puis là, la chambre, c'était-tu d'un coup quand j'avais dit ça? Puis tout le monde avait bien ri. Puis c'était sorti de même. Fait que ça m'avait fait bien rire. Puis évidemment, j'en étais bien fier, mais c'est ça. Quand je me lève en chambre, quand on se lève, c'est pas moi, Gabriel, qui se lève. C'est le comté de Joliette, c'est le monde de chez nous. Puis on est là pour défendre leurs intérêts, leurs valeurs. Fait qu'il faut la prendre notre place, il faut la faire. Puis si rechahute, je vais recommencer.
C'est le meilleur mot de la fin que tu pouvais donner dans les circonstances. Merci beaucoup. Merci pour ton engagement au niveau des finances. Merci d'être le pédagogue que tu restes comme professeur auprès aussi de nous, les nouveaux députés, puis de gens qui s'intéressent à la question des finances, du développement économique. Et donc, en terminant, comme prochain invité, on va s'intéresser à justement pourquoi y a-t-il deux classes d'aînés. On va essayer d'approfondir ça. Merci, Gabriel.
Ça va être bon. Merci à toi, Sébastien, puis bravo.
Merci.
L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue.
Vous écoutez la balado politique Les Honorables comme invité cette semaine.
L'honorable député de Joliette.